La collecte des paroles et écrits de fusillés ou de leurs descendants révèle nombre d'informations sur les vécus, les sentiments, les engagements des victimes. Écrits de prison. Louis, interné à la caserne Boudet, annexe de la prison du Fort du Ha, a écrit à l'été 42.
Qui que vous soyez, rendez-moi le service de faire passer ce mot à ma femme pour qu'elle ait de mes nouvelles. Je vous en remercie d'avance au nom de mon enfant. Faites ce geste en mettant ce pli sous enveloppe et en l'envoyant à l'adresse ci-dessous. Ma chère femme, ma chère enfant, je confie ces deux mots à la bonté d'un passant qui, je l'espère, fera le geste que je lui demande. Je suis bien malheureux d'être séparé de vous, mais il faut espérer que la séparation ne sera pas trop longue. Si tu peux venir, viens à la rue, devant le numéro 8, de midi à 2h, car à ce moment-là, c'est à peu près tranquille. Jeudi. Je sais que je suis rue de Pessac au Conseil de guerre, mais je te demanderai, ma chérie, de faire ce que tu pourras pour m'envoyer à manger, car j'ai faim. Bouillon le matin et le soir avec un morceau de pain gros comme le poing. Ah, as-tu mon vélo pour aller au jardin où tu dois avoir beaucoup de travail et ensuite faire des conserves? Quand tu viendras pour lire le papier, va-t'en un peu plus loin. Et un quart d'heure après, reviens pour me voir. Et après, tu t'en iras. Et avant que je te lance le papier, tu feras bien attention qu'il n'y ait personne. Tu enverras l'autre lettre à... Si un jour tu viens et que je ne sois pas à la fenêtre, va jusqu'au bout du bâtiment et reviens. Et si tu ne me vois pas, c'est que j'aurai changé de cellule. Je te promets que les petits pains et les œufs, c'était bien bon. Et c'est dommage qu'il n'y en ait eu que deux, mais si les autres paquets passent, là, ça sera la fête. La barbe, c'est 3 francs. Les cheveux, 6 francs. Tu me dis que tu m'envoies le mandat, mais de combien il est? 53 jours que je suis ici. Et si je t'ai condamné et que je doive passer l'hiver ici, tu m'enverras des effets, ceux que j'ai de plus vieux, car le linge est lavé à la machine et il revient dans un bien triste état. En attendant de vous voir à toutes les deux, je vous dis, ma chérie, recevez les meilleurs baisers, toi de ton mari qui pense à toi, et embrasse bien ma, bien fort ma Jojo. Bonjour à tous.
Pierre, transféré au Fort du Ha, raconte.
Le soir de mon transfert, arrivait un jeune homme de 20 ans, qui déclara s'appeler Pierre, natif de Caudreau en Gironde. Comme nous étions sans occupation, dans un espace de 10 mètres carrés environ, chacun contait son histoire, celle qui l'avait conduit dans ce lieu. Pierre nous fit savoir qu'il avait été arrêté pour espionnage et qu'il venait de passer plusieurs mois en cellule noire, au rez-de-chaussée, un pied enchaîné au lit, qui lui permettait seulement de se déplacer de son lit jusqu'au water. Le jour de son arrivée parmi nous, il avait été conduit au tribunal militaire pour s'entendre condamné à la peine de mort pour espionnage. Il avait été arrêté 11 mois plus tôt au Café des Arts, à Bordeaux, dénoncé par un bon français, entre guillemets, employé dans ce bar, qui devait lui communiquer des renseignements que Pierre transmettait ensuite à ses supérieurs de la Résistance. Pierre appartenait à un réseau et passait souvent la ligne de démarcation. Les verrous de notre porte grincèrent et la clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit et nous vîmes un soldat allemand qui annonça « Pierre !» Nous ne devions plus jamais revoir Pierre. Mais pour nous, il n'y avait aucun doute sur ce départ précipité. En fait, j'ai appris par la suite qu'il avait été fusillé ce matin-là, 13 juillet 1942, à Sauges, et enterré à Salaune. Lorsque je suis allé avec sa famille pour le reconnaître, il portait toujours son costume rayé, mais sur sa poitrine, il y avait un carré d'étoffe qui avait servi de cible au meurtrier.
Certains ont raconté leur visite au centre d'internement de Mérignac, Beaudésert, Picheil. Michel.
Oui, tout le monde fut transféré de Bacalan à Mérignac. Là, tous les dimanches, nous partions pour voir mon père. Je me souviens, il y avait un grand portail, une guérite, une grande cour, des baraquements. Et là, papa et ses copains. Et puis un jour, un officier allemand a été tué. On a pris 50 otages à Mérignac. On les a fusillés le 24 octobre 1941. Parmi eux, il y avait mon père. Je n'avais pas 8 ans, je m'en souviens encore. Et puis la vie, hélas, a continué. Maman et ma sœur ont continué le combat, distribué des tracts, aidé et caché des réfugiés. En juillet 1942, je revenais de l'école, c'était un samedi. Il y avait un mot sur la table de la cuisine. Maman avait été arrêtée, elle aussi. Je ne l'ai jamais revue. Il y a eu le fort du Ha, Romainville et Auschwitz. J'avais 8 ans et demi. Je me souviens toujours.
Gabrielle, fille de Gabrielle.
J'avais 10 ans depuis 3 jours quand le 8 février 1941, mon père a été arrêté. J'étais jeune, mais je me souviens, d'abord interné à Bacalan et puis transféré à Mérignac, Picheil. Il est resté dans ce camp jusqu'au 24 octobre 1941, date à laquelle il a été fusillé parmi les 50 otages au camp de Sauges. À diverses reprises, ma mère, dans l'impossibilité de se libérer, m'a envoyé seule lui rendre visite et lui porter quelques maigres provisions. Nous habitions Libourne. Il fallait donc se rendre à Bordeaux, ce que je faisais grâce à une voisine qui assurait une liaison de transfert de colis entre ces deux villes et me déposer près des Quinconces pour prendre un tram jusqu'à Mérignac-Picheil. Lors d'une de ces visites, alors que je descendais du camion, j'ai vu un tram partir. Alors j'ai couru, j'ai pu le prendre en marche, et n'ai réalisé mon erreur qu'en arrivant au terminus, à Mérignac, et non pas Picheil. Bien jeune et inexpérimenté, j'ai continué le parcours à pied, désespéré, et en pleurs. C'est alors qu'une carriole, tirée par un cheval, s'est arrêtée à ma hauteur. L'homme qui la conduisait m'a questionné sur mon chagrin et m'a proposé de me conduire à ma destination. Mais auparavant, il devait livrer des fruits et des légumes dans diverses résidences où des Allemands s'étaient installés. Je garde de cet homme un souvenir touchant. Conscient du temps et qui s'écoulait et du retard qu'il me faisait prendre pour tenter de calmer mes pleurs. Et vous savez ce qu'il faisait? Il m'offrait des bananes. Et quand enfin nous sommes arrivés, c'était la fin des visites. J'aperçus mon père, qui raccompagnait une amie bordelaise venue le voir. Devant la déception de la petite fille que j'étais, le gardien m'a permis de rentrer. Et dans le grand hangar qui servait de parloir, j'ai pu partager un moment avec mon père.
Régine, internée elle aussi à Mérignac, obtient l'autorisation d'aller voir son frère dans la baraque des otages, la veille de la fusillade du 24 octobre 1941. Elle le raconte plus tard.
Les inspecteurs de police sont venus dans le camp. Après avoir interrogé un certain nombre de prisonniers, ils m'ont fait appeler et ils m'ont dit « Vous savez ce qui s'est passé ?» Alors écoutez, vous avez le moyen de sauver la vie de 50 de vos camarades. Il vous suffit de nous donner des noms. Alors je répondais que je ne savais rien. Ce qui était vrai d'ailleurs. Et puis je me suis mis à rouspéter. Je leur disais, vous m'aviez libéré parce que mon mari est prisonnier et parce que ma fille était seule. Et maintenant, vous me reprenez de nouveau? Je suis là depuis hier, je n'ai même pas pu parler à mon frère qui est enfermé dans sa baraque. Etc, etc. Vous voulez voir votre frère, m'a-t-il dit? Je lui réponds, oui. Eh bien, nous allons vous accompagner, vous allez le voir. Mon frère, bien entendu, était sur la liste des fusillés. Donc je rentre dans la baraque, le garde reste dehors, et je leur dis, mais c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Après les 50 de Nantes, ils peuvent pas faire ça à Bordeaux. Enfin, sinon ils vont avoir toute la population contre eux. Il y avait le docteur Nancel Pénard qui me répondit, moi je te trouve bien optimiste. À mon avis, tu te trompes. Ils vont aller jusqu'au bout. Cela m'a fait l'effet d'une douche froide. Est-ce que je disais ça parce que je le pensais, ou alors peut-être pour leur redonner le moral? Je leur racontais mon interrogatoire avec Lafargue, le policier Lafargue. L'atmosphère était tendue. Ils savaient que parmi eux, il y en avait qui étaient sur la liste. Le lendemain, le camp a été envahi par des soldats allemands armés de mitraillettes. Ils sont allés devant chaque baraque et le chef des gardes appelait les noms. Un tel ! Un tel ! Sortez ! À un moment donné, il y avait un des prisonniers qui n'allait pas assez vite, alors il lui a dit « Allez, dépêchez-vous ! Ne faites pas attendre ces messieurs !»
On va maintenant aborder les extraits de dernières lettres de fusillés. Les Allemands ont distribué à partir de 1942 un papier et un crayon à papier et une feuille aux fusillés pour qu'ils écrivent les derniers mots qu'ils voulaient transmettre à leur famille. On va commencer. Non, c'est bon. On va commencer par la lettre qu'a écrit le père d'André à son épouse. Et vous remarquerez que dans la lettre, il est question du bébé à naître. C'est elle.
Je parle comme ça. À ma petite femme chérie, à ma petite fille Christiane. Et à mon petit garçon ou petite fille que je n'aurai jamais l'occasion de connaître, à mon père, à ma mère, à mon frère. À vous tous que j'aime beaucoup, jusqu'au dernier moment, tout mon amour, toute mon affection va vers vous. Ma chère femme, ma petite Christiane, et mon futur héritier ou héritière, je vous aime beaucoup. Ma chère mère, mon cher frère, mon cher père. Vous pouvez être fière de moi. Pour toi, ma chérie, ma petite femme, tu me connais. Élève ma fille comme je l'aurais fait de moi-même. parle-lui toujours de son papa. Si j'ai un fils ou une fille, donne-lui mes prénoms. Chérie, le coup pour toi va être très, très dur. Mais surtout, n'oublie jamais que j'aime ma famille. Il faut que tu sois forte pour élever ta petite famille. Tu sais que j'aimais ma famille, ne l'oublie jamais. Voilà, chérie, mes dernières recommandations. Je vais mourir, je sais que tu feras tout cela. La lettre est personnelle à ma maman. Voilà. Donc, il y a 82 ans que cette lettre a été écrite.
Donc, son père a été fusillé le 21 septembre 1942. Ensuite, on a aussi René qui a écrit.
Ma dernière pensée est pour toi et pour mes fils chéris. Je viens d'entendre les fusils. C'est mon tour. Adieu. Sois courageuse.
Gérard à ses parents.
Il est environ 9 heures. Je viens de me confesser avec monsieur le curé de l'hôpital Saint-André. Je viens aussi de communier. Je pars loin de vous en apportant de vous votre souvenir. Sachez que devant le poteau, la mort ne fait pas trembler un catholique français. Faites votre possible pour le petit afin qu'il ne soit pas malheureux. Quant à ma femme chérie, ma petite Renée, qu'elle se remarie dans quelque temps et qu'elle soit heureuse. Que Dieu garde mon âme.
Renée à sa famille.
Les boches sont déchaînées. Je ne regrette rien. Et si c'est dur pour moi de mourir à 25 ans, je me raisonne et m'apprête à faire bonne contenance devant la mitrailleuse Bosch. Je pense à ma mère que les assassins ont rendue folle, à mon père qui est mort certainement depuis longtemps. Camarades, faites payer aux Bosch nos tortures physiques et morales. Et n'oubliez jamais les Bosch français, la sinistre bande à Poinceau. Faites payer les tortures, les morts, la faim qui nous tord l'estomac. J'embrasse tendrement ma compagne, qui, elle aussi, souffre en prison. Dites-lui que c'est avec une pensée pleine de jours durs mais heureux que nous avons passé ensemble que je m'apprête à mourir. Et vous tous, chers camarades, continuez l'œuvre entreprise. Nous vous passons le flambeau. Le communisme, c'est l'avenir du monde. Je vous embrasse bien fort. Vive le Parti communiste, vive la France.
Roger à ses parents.
Je vous écris pour la dernière fois en de bien tristes circonstances. Je vais mourir à 5 heures cet après-midi. Je suis très courageux. Maintenant, je dis au revoir à mon très bon papa, à ma bonne maman, à toute la famille. J'ai laissé mon pardessus pour André. Il n'aura qu'à le retourner, il sera neuf. Voilà, je termine cette lettre, qui est pour moi un calvaire. Je vous aime tous.
Paul, à son fils, agent de liaison.
Mon cher petit Polo bien-aimé, bientôt, dans une heure, toutes mes plus tendres pensées seront tournées vers toi. Je suis fier de toi, mon petit, et je sais que tu te conduiras en homme loyal dans toute ton existence. Si tu as des défaillances, rappelle-toi que ton papa veut être fier de toi. Travaille bien. Et tu me feras de la joie. Tu es l'homme qui déjà me remplace. Je t'étreins bien fort sur ma poitrine et te dis adieu dans ce suprême baiser. Adieu, mon petit. Je t'aime. Vive la France. Papa.
Charles à son copain Robert.
Mon cher Robert. Adieu, mon vieux Robert. Et je te souhaite ainsi qu'à tous les copains et copines une vie belle et heureuse, et que notre sacrifice aura enfin servi à quelque chose de propre pour la France. Et surtout, dis-toi bien que devant le poteau d'exécution, je me tiendrai aussi bien que sur un terrain de rugby. Charlot.
Maurice à sa femme.
Ma petite femme adorée, pour mon fils, élève-le pour en faire un homme instruit, s'il le peut, et pousse-le aux études. Je vais faire mon possible pour te faire retour de mon alliance. Ce sera un souvenir que tu transmettras à mon fils. Je t'envoie une dernière fois mes plus doux baisers.
Robert à sa femme.
Ma petite femme adorée, tu feras donner une bonne instruction à mes deux chéries. Vois-tu, ma douce aimée, c'est la guerre, la terrible faucheuse d'hommes, qu'il faudra leur apprendre à maudire.
Giuseppe à sa femme.
Giovanna, si tu le désires, et si tu trouves un autre homme qui te convienne et qui puisse te consoler, je t'autorise à te remarier. Seul compte ton bonheur et celui des enfants. Ne crains rien pour moi et marche la tête haute, car tu as perdu ton mari pour la France.
André à sa mère, sa femme, ses enfants.
Je vous embrasse pour toujours et vous envoie avant la tombe mon dernier souvenir. Il est resté au bureau 238 francs. J'ai encore mon alliance au doigt. 7h30, j'ai tout refusé. Communion, cigarette. Un dernier adieu.
Werther, à son copain Henri.
Et 5h du matin. Je n'entendais pas, mon cher Henri. Je crois que ce sont eux. 16 copains avec moi vont faire le voyage. Le vent siffle et il pleut aujourd'hui. Ça ne fait rien. Tout passe. Et les beaux jours reviendront vite.
On va interrompre pendant deux chants de la chorale des Amis de l'Ormée cette lecture et on reprendra en suivant.
Je vous dis d'abord que c'est très difficile d'intervenir après ces paroles. Merci, M. Santini. Merci. Non. Il y a quelque chose de difficile à vous dire, c'est que notre chef Charlotte Lasnier ne peut pas être présente parce qu'elle souffre. Elle ne pourra pas nous diriger. Alors donc, nous sommes la chorale des Amis de l'Ormée, que je présente habituellement comme une chorale populaire, citoyenne et autogérée. Et nous serons en quasi-autonomie maintenant. Voilà, et nous allons essayer de faire au mieux. Est-ce qu'on me voit?
Et Jean-Jacques, prends le micro.
Ben que les gens devront s'asseoir.
D'accord. complainte du partisan d'Anna Marie.
Merci. Nous allons maintenant reprendre à partir de textes écrits après la reconnaissance des corps des fusillés qui a eu lieu à l'automne 1944. Et ensuite, les familles ont pu inhumer leurs parents dans les caveaux familiaux pour ceux qui avaient été identifiés. Martine.
Ma grand-mère était venue en train de La Rochelle jusqu'à Bordeaux, et ensuite à pied jusqu'à Martignac-Sauge pour reconnaître le corps de mon grand-père.
Jacqueline.
J'avais 21 ans. C'était une belle journée ensoleillée du mois de décembre 1944. Après de longues recherches, sans résultat, dans les compagnies militaires issues des maquis de Dordogne-Nord, où mon frère Robert et son camarade Guy avaient participé aux différentes actions de ces groupes depuis février, nous avions appris par l'Office des fusillés de Bordeaux que ces deux jeunes, 19 et 20 ans, avaient été fusillés le 29 juillet 1944 à Sauges, et qu'une reconnaissance des corps devait avoir lieu. Maman et moi, ainsi que les parents de Guy, étaient donc présents ce jour-là, dans la clairière, devant des dizaines de cercueils contenant les corps retrouvés dans des fosses communes. Aujourd'hui, j'ai 87 ans, et j'ai toujours cette vision aussi présente. Vint le moment où chaque cercueil fut ouvert l'un après l'autre, et la vision de ces corps, couleur de la terre qui leur avait servi de linceul, fut un choc. Quand je pense à mon frère, c'est cette dernière image qui a presque effacé toutes les autres de sa vie et qui se présente à mes yeux. Les personnes qui ont assisté à cette cérémonie ne doivent plus être très nombreuses aujourd'hui, mais je pense que, comme moi, c'est le souvenir le plus terrible de ma vie, de leur vie, qui nous accompagnera jusqu'à notre disparition. La recherche du plus petit indice qui pouvait nous faire reconnaître sans contestation possible celui que nous devions ramener chez nous défile devant mes yeux. Mais nous étions tellement surpris, tellement bouleversés, que si nous étions sûrs d'avoir reconnu Guy, il fallut une deuxième ouverture des cercueils, dont les corps n'avaient pas été reconnus lors de la première fois, pour enfin avoir sous nos yeux Robert, identifiable, sans aucune restriction. Il portait un pull vert que j'avais tricoté moi-même. C'est le film qui passe dans ma tête et qui repasse encore et encore.
Enfin, pour conclure, le témoignage d'un petit-fils de fusillé, Pierre.
Après l'arrestation de mon grand-père, ma grand-mère et ma mère allaient chaque semaine au fort du Ha, où il était incarcéré. Elles lui amenaient des vêtements propres. Elles essayaient de le voir, d'avoir des nouvelles. En fait, de nouvelles, elles recevaient en échange du linge propre le linge de la semaine écoulée. Mon père était tous les deux ou trois jours extrait de sa cellule pour être interrogé par le commissaire Poinceau et ses sbires, pour être torturé, pour parler clair. Et le linge de la semaine était déchiré, maculé de sang et de pus. Ceci jusqu'à ce qu'il soit transféré à Mérignac, puis venir à Sauges, y être fusillé. Une semaine, dans les plis du linge, ma grand-mère a trouvé un message griffonné. « Sauve-toi, ils veulent te déporter. » Aussi, ayant lu ce message, ma grand-mère, qui avait 30 ans, a pris ses enfants par la main et a gagné la zone libre vers Bazas, à pied, sans le sou. Ils étaient affamés, ils dormaient dehors. L'armée allemande les a repoussés une première fois. Bref, ils ont fini par passer. Ma mère, qui avait 10 ans à l'époque, avait de la fièvre. Le pharmacien a refusé de donner les médicaments, même en échange de la bague de ma grand-mère. Lorsque je vois des enfants, des femmes, des hommes à nos frontières, je me dis que c'est nous, hier. Il n'y avait pas de mer à traverser. Les fusillés sont morts pour la liberté, certes, mais aussi pour un monde plus humain, plus fraternel, un monde de paix.
Merci. Enfin, la chorale des Amis de l'Ormé va nous interpréter le dernier chant de l'après-midi.
Syndicale à CGTU avant que l'histoire fasciste de la France ne lui offre définitivement la vie à 37 ans, originaire d'Haïti. Alors, en mémoire de Loulou, comme des 256 de souche, nous allons chanter, nous allons essayer de bien interpréter, Freedom, qui veut dire liberté.
Ma chemise bleue.
Find me a
C'est Agnès. Oui.
Voilà, cette manifestation est terminée, mais nous vous invitons à nous retrouver à la sortie de la salle, à la place des voûtes, pour le verre de l'amitié.